Bonjour et bienvenue dans Questions politiques en direct et jusqu'à 13h, le rendez-vous politique de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Merci de nous être fidèles tous les week-ends. Notre invité jusqu'à 13h, il déclarait il y a quelques semaines à peine qu'il fallait tout changer au Parti Socialiste ou bien mourir. Quelle voix compte-t-il faire entendre dans le paysage politique français? Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, viendra nous rejoindre dans un instant. Nous attendons vos questions, vos commentaires sur le Facebook Live de l'émission ou sur Twitter, le mot-clé Question Paul.
France Inter. Question politique. Ali Badou.
Et avec moi en studio, l'équipe du dimanche, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour, donc Ali.
Ali. Badou. Françoise Fressoze du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Laurence Perron de France Inter.
Bonjour Ali.
Tout va bien?
Tout va bien.
Avant d'accueillir Olivier Faure, le rapide tour de table du dimanche. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? On commence avec vous Nathalie.
Alors ce qui m'a marqué, c'est pas purement politique, mais c'est quand même dérivé. C'est à la suite du meurtre de cette petite fille ou cette petite jeune fille Angélique dans le Nord qui a serré le cœur à toute, j'imagine, toute la France. J'ai trouvé ça assez notable qu'il n'y ait pas de polémique stérile comme on a pu en connaître avant ou il y a 5 ans, 10 ans, chaque fois qu'il y avait un crime de cette nature avec les politiques s'envoyant à la figure des formules toutes faites. Là, il y a eu certes la castration chimique qui a été posée sur la table par Laurent Wauquiez et Ségolène Royal, mais on peut se dire que c'était une question qui se pose, mais on n'a pas assisté à une surenchère. Et j'en discutais avec Xavier Bertrand et j'ai appris quelque chose, c'est-à-dire que lui, il est dans son coin, il est dans le Nord, il travaille sur sa région. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé le modèle du Canada et qu'est-ce qu'il lance? Il lance des maisons qui s'appellent des maisons de transition. Alors ces maisons de transition sont des lieux où il y a des médecins, où il y a des psychologues, où il y a des gens qui aident les détenus à se réinsérer. Et peut-être ceux aussi qui auraient des problèmes, qui tout d'un coup auraient des pulsions violentes, ils ont un lieu où on les écoute et on peut les aider. Et c'est peut-être simplement par le terrain justement que ce genre de choses se réglera. C'est ni droite ni de gauche, c'est le bon côté des choses. Et puis juste avant d'arrêter, je vais faire un truc totalement subjectif. Il y a un film.
Allez-y.
Qui s'appelle Monsieur Je sais tout, qui est sur le syndrome d'Asperger, dont ce symptôme, cette maladie, ce syndrome, c'est une forme d'autisme avec des enfants qui vont très très vite et tout. Et je trouve que ce film est délicat, drôle, pas gnangnan, pas plein de bons sentiments. Et je pense que faire des films là-dessus qui sont aussi frais, aussi positifs, eh bien, ça fait plus pour cette forme de handicap que toutes les journées de la Terre et que tous les reportages de la Terre. Donc, chapeau et allez le voir.
Merci du conseil. Françoise.
Eh bien, retour à la politique avec la manifestation d'hier, la fête à Macron, organisée par la France Insoumise dans les rues de Paris au moment où le président de la République fête le premier anniversaire de son élection. C'était une démonstration de force réussie qui donne l'impression qu'entre Mélenchon et Macron, il n'y a personne. Le président de la République a tellement désorganisé le système politique qu'il se retrouve seul face à un seul opposant visible, celui qu'il a battu lors de l'élection présidentielle de l'an dernier. Alors d'une certaine façon, cette confrontation arrange Emmanuel Macron parce qu'il peut jouer la corde de la France raisonnable face aux extrêmes pour consolider son assise et poursuivre les réformes. Mais cela suppose quand même de ne pas surjouer la confrontation. Or, cette semaine, les proches du président de la République en ont fait beaucoup. Ils ont exploité la peur. Dans la foulée des violences du 1er mai, ils ont mis en cause le discours d'agitation de la France insoumise, les propos, je cite, « Poujadeau castriste » de Jean-Luc Mélenchon, laissant entendre que la colère sociale que porte le leader de la France insoumise a un lien direct avec la violence de la rue qu'on a constatée le 1er mai. Or, hier, les incidents ont été tout à fait limités et c'est l'esprit potache qui a dominé le rassemblement qui avait été voulu par l'inventif François Ruffin. Et cette volonté affichée de, ouvrez les guillemets, joie collective était au fond la meilleure arme contre ce président qui réforme au pas de charge sans empathie avec le risque de prendre la grosse tête. Hier, le point était évidemment du côté de la France insoumise.
Merci Françoise. Laurence.
Moi, j'ai du mal avec la politique. C'est les 1 an de Macron.
Ça tombe bien.
Et, non, mais j'essaye de comprendre.
C'est bien une question politique.
Et on a beaucoup reproché à François Hollande de pas avoir de vision d'ensemble, d'avoir une politique très pointilliste, de pas avoir de récit. Et là, ça fait 1 an qu'il est au pouvoir, Emmanuel Macron. Et moi, je ne comprends rien. Je l'ai vu la semaine dernière embrasser et le président Trump, voilà. Enfin, voilà, il était en pleine empathie. Le même que l'on voit sur les télés. En train d'imiter les terroristes du Bataclan en expliquant que s'ils avaient eu des armes, ils auraient pu se défendre. On a l'impression de voir un clown. On se dit c'est le même type avec lequel il s'est entretenu. Il y a cette image de Marx attaque, une manifestation du 1er mai où tout à coup on a des images absolument incroyables où voilà, il y aurait 200 types qui surgissent comme ça dans la manifestation et
vous
on a rien
des
vu.
Black Blocs.
Ouais, des Black Blocs. Et on n'a rien vu venir. On vient de passer quand même, je sais pas trop combien d'années sous état d'urgence, etc. On est censé avoir des moyens quand même de contrôler. Voilà, une exit tax qu'on apprend comme ça en lisant les pages d'un magazine. Et pendant ce temps-là, le président est à l'extérieur. Et pendant ce temps-là, le premier ministre organise un séminaire sous cloche. Tous les gens qui y ont assisté peuvent vous dire. Édouard Philippe n'a jamais voulu parler avec un journaliste, il jouait à cache-cache avec la presse. Il y a un petit côté un peu, mais que font ces gens? Un petit côté, ils sont à Baden-Baden ou dans une autre dimension. Et pendant ce temps-là, alors ça c'est ce que diraient certains à droite, la chienlit s'installe.
Merci Laurence. Est-ce que lui arrive à y voir clair et à comprendre ce qui se passe sur la scène politique française? Il est 12h10, c'est l'invité de Questions Politiques. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, s'installe dans le studio 221 de la Maison de la Radio. Bonjour Olivier Faure. Et bienvenue. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine?
Je voudrais rajouter une touche supplémentaire avec ce magazine Forbes, qui est le magazine des puissants, et dans lequel le président de la République française a réservé ses annonces sur l'exit tax, avec cette volonté de continuer cette politique libérale. On a eu l'automne avec la loi de finances, la flat tax, la fin de l'ISF, et puis maintenant l'amnistie pour celles et ceux qui voudraient s'évader fiscalement. Et donc, on a là à la fois une continuité, et une continuité dommageable, parce qu'elle montre ce qu'est véritablement ce pouvoir, un pouvoir qui devait être le nouveau monde, et qui est en fait la nouvelle droite.
On va en parler avec vous longuement, essayer de comprendre aussi quelle est votre stratégie politique, quelle voix vous voulez faire entendre, et comment la faire entendre sur la scène politique française. Un commentaire tout d'abord sur ce discours que prononçait justement Donald Trump devant la NRA, le puissant lobby pro-armes américain, qui prenait l'exemple des attentats du Bataclan pour justifier le port d'armes, estimant que ça aurait été, je le cite, une toute autre histoire si les victimes avaient été armées. Et le locataire de la Maison-Blanche est allé jusqu'à mimer la scène. Ils ont pris leur temps, ils les ont tués un par un. Boum, viens là, boum, viens là, boum, viens là. Commentaire Olivier Faure.
Si il fallait illustrer le dictionnaire, au mot indécence, on pourrait prendre la photo de Donald Trump. Parce que ses propos sont indignes, son mime l'est davantage encore. Et je souhaiterais que le président de la République, qui la semaine dernière, ça a été dit à l'instant par Laurence Ferrand, était dans la bromance, cette romance entre frères. J'aimerais qu'on comprenne où est le président de la République et j'aimerais qu'il réagisse directement. Le président américain ne se gêne pas pour insulter la mémoire des victimes du Bataclan. Il faudrait que le président français soit là aussi pour dire qu'il y a des bornes aux limites et qu'il faut aussi, de temps en temps, se faire respecter. La diplomatie, ça n'est pas l'effacement, ça n'est pas l'alignement sur l'allié puissant qu'est Trump.
Le Quai d'Orsay a réagi, pour vous, ça ne suffit pas?
Mais on a un président américain qui est intervenu, je souhaiterais que le président français lui-même intervienne et fasse respecter la mémoire de ses victimes et que dans le rapport que nous entretenons avec l'allié américain, nous ne soyons pas la partie faible et que nous ne soyons pas simplement dans une forme d'effacement à chaque fois que Trump, par ses outrances, nous indigne.
Nathalie. Vous pensez qu'il y a une ambiguïté du côté d'Emmanuel Macron pour ne pas fâcher Donald Trump, clairement?
Je ne sais pas s'il y a une ambiguïté. Je dis simplement qu'il y a une faiblesse qui se traduit aujourd'hui par sa volonté de ne pas répondre très directement. Et je souhaiterais qu'il puisse le faire.
Tout de suite, le zapping politique de la semaine. Il est signé Aurélien Colli.
La semaine a commencé mardi 1er mai, fête du travail, mes syndicats en ordre dispersé pour défiler. En ordre de bataille, en revanche, 1200 radicaux qui estiment que la violence sociale vaut bien la destruction de quelques-uns de ces symboles.
Casser une vitrine, brûler une voiture, ou faire quoi que ce soit, c'est pas violent. Parce qu'en fait, on s'attaque à des symboles, à du matériel, à de l'argent, en fait.
Polémique et politique, Marine Le Pen la joue désabusée à Nice, où elle a délocalisé son 1er mai.
Ces milices d'extrême-gauche devraient être dissoutes. Le problème, c'est que le pouvoir de gauche fait preuve à leur égard d'une mansuétude et maintenant on peut presque dire d'une complicité.
Dans la capitale, c'est Florence Berthoux, présidente du groupe LR au Conseil de Paris, qui monte au créneau.
Ce sont des professionnels du désordre. Ça ne peut plus durer.
Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, affiche lui sa fermeté.
Celles et ceux qui pensent pouvoir mettre la violence dans notre pays seront poursuivis.
Et le Premier ministre Édouard Philippe va au chevet des policiers.
Il y a toujours des polémiques, il y a des professionnels de la polémique. Moi, ce que je constate ce soir, c'est qu'il n'y a pas de blessés. C'est qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui devraient passer un petit peu de temps en garde à vue. C'est très bien.
1er mai gâché, lutte sociale zappée, Jean-Luc Mélenchon condamne sans hésiter les violences.
Je dis aux plus jeunes, ne vous laissez pas embarquer là-dedans. Ce type de violence ne mène nulle part.
Au NPA, Philippe Poutou, lui, tente de justifier.
La confrontation, le gouvernement la recherche. Il expulse les zadistes, ils expulsent des étudiants qui occupent pacifiquement, que ce soit à Tolbiac ou ailleurs. Donc effectivement, il y a un moment donné, il y a des réponses.
Quant au Parti Socialiste, Olivier Faure s'interroge.
À qui sert le crime? On peut se demander s'il n'y a pas eu une sous-évaluation de ce qu'étaient les risques encourus par la manifestation.
Certainement pas, répond le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, pendant qu'à 15 000 km en Australie, Emmanuel Macron se fait rattraper par cette actualité.
La journée du travail, c'est la journée des travailleurs, ce n'est pas la journée des casseurs.
Loin des yeux, loin du cœur, ça n'existe pas.
Loin des yeux, mais pas du cœur, en plein conflit social, voilà le président français qui fait aussi la une du magazine Forbes, un champion du libre-échange qui entend supprimer l'exit tax de Nicolas Sarkozy, censé freiner l'exil fiscal des plus fortunés. À Paris, c'est le député LR Éric Ciotti qui joue les insoumis.
C'est un nombre de contribuables qui vont bénéficier d'un véritable cadeau. Donc je ne sais pas si c'est le banquier d'affaires ou le président de la République qui a pris cette décision.
Rattrapé aussi le président français par ses comptes de campagne, impressionnante ristourne au offerte par ses réseaux. Ça aussi, ça vaut bien une fête à Macron, dans l'humour et la bonne humeur, insiste l'instigateur, l'insoumis François Ruffin.
Nous, on veut un événement festif et joyeux. Jamais je n'ai prôné la violence. Et moi, mon objectif, c'est que les papas et les mamans, ils puissent venir en poussette pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron.
Pas de quoi amuser l'exécutif qui met en garde et met en cause. La mise en cause vient de Sydney, d'un président agacé qui vise Jean-Luc Mélenchon sans jamais le citer.
Les pyromanes indignés, des responsables politiques qui ont en permanence un discours d'agitation, ils n'ont jamais accepté la défaite.
Mais pas de quoi impressionner le principal intéressé.
Les leçons de vocabulaire, ils se les gardent pour eux. Hein. Eux, ce qu'ils aiment entendre, c'est « oui chef, bien maître ». La violence verbale, elle est du côté de l'arrogance des maîtres. Voilà. Et ils ne supportent pas qu'on leur tienne tête. Eh ben, ils perdent leur temps parce que nous leur tenons tête.
Quant à la mise en garde, elle vient du Premier ministre Édouard Philippe, pilote d'un avion France qui a délocalisé son gouvernement dans le Cher.
J'ai toujours appelé l'ensemble de ceux qui ont une responsabilité publique à être attentifs à leurs propos, car je crois que leurs propos ont du poids.
Finalement, le bonheur n'est pas toujours dans le pré.
Elles sont déchaînées, ces salopes. Elles veulent des garanties, alors ça, c'est la meilleure.
Ah, regarde trop la télé. Ah, on voit que des grèves à la télé.
Et pour se faire entendre, en ce joli mois de mai, pas besoin d'arracher les pavés, rappelle Benoît Hamon, qui a fait la fête à Macron avec son mouvement Génération.
Ce qui n'est pas sérieux, c'est la manipulation. Il y a manipulation du gouvernement. Personne n'a envie de se retrouver au milieu des gaz lacrymogènes et des black blocs.
Merci Aurélien Colli, notre invité jusqu'à 13h, et le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Votre portrait, Olivier Faure, c'est la tradition. Il est signé aujourd'hui Laurence Perron.
Alors vous êtes ou très pudique, ou très cachotier, ou alors vraiment très sage. Mais c'est assez compliqué de faire du gras avec ce qu'on peut lire de vous dans la presse. Alors on pourrait vous brosser en trois lignes. Enfance dans une barre d'un quartier populaire d'Orléans, une mère vietnamienne, un père de droite. Ça vous le revendiquez depuis assez peu de temps. Que vous contrariez... Ah, enfin, vous le dites en tout cas, mais on l'avait déjà. C'est récent dans votre biographie. Alors vous le contrariez peut-être, mais ça n'est pas écrit. Lorsque vous rejoignez le PS à 16 ans et demi, colocataire de Benoît Hamon et rocardien, comme Hamon plus à gauche, comme Valls plus à droite, ce qui fait de vous un peu le type du milieu. Ce petit côté le fond entre deux chaises qui vous poursuit toute votre jeune carrière d'apparatchik, qui n'a d'ailleurs aucun problème avec l'appareil. Vous avez travaillé avec Martine Aubry, ministre, avec François Hollande, premier secrétaire. Ce qui vous fera dire d'ailleurs, je suis l'enfant unique du couple, improbable, hein, ça c'est moi qui rajoute, de Martine et François. Et de fait, c'est une grande qualité qu'on vous reconnaît, et que vous reconnaît surtout Jean-Marc Ayrault, votre mentor, où l'on découvre que Jean-Marc Ayrault peut être un mentor, et oui, l'ancien Premier ministre vous voit comme le meilleur point d'équilibre aujourd'hui d'un PS trop longtemps écartelé entre sa droite et sa gauche. Alors, est-ce que cela fait de vous un tiède? Pas nécessairement. À votre manière, l'air de ne rien y toucher, vous vous êtes opposé à la déchéance de nationalité, à la loi travail, et vous avez quasi frondé en soutenant un amendement pour la réforme fiscale, voulu par d'ailleurs Jean-Marc Ayrault, que François Hollande a abandonné en race campagne. Pour autant, lorsque le président ni de droite ni de gauche se choisit un Premier ministre de droite, vous lui laissez sa chance, une abstention polie sur la confiance, là où la gauche insoumise, Mélenchon, donne de la voix. C'est la voix que vous avez toujours un peu empruntée, médiane, sur la crête. C'est sincère, c'est pas forcément lisible, mais vous croyez à l'intelligence des peuples, Albert Camus en Horizon politique, la quête du juste, débarrassée de la violence, sur laquelle d'ailleurs Camus n'a pas jamais statué véritablement, et cette phrase de Camus toujours, la fin justifie les moyens, mais qu'est-ce qui justifiera la fin? Je vous pose la question.
Réponse Olivier Faure.
C'est une bonne question. Je ne sais pas si on a une heure devant nous pour faire de la philosophie.
45 minutes.
45 minutes. Mais j'essaierai dans cette émission de vous montrer effectivement qu'il faut à la fois que la fin ne soit d'abord justifiée pour en justifier les moyens. Et donc, c'est toute la question de la vision que nous devons développer, qui est devant nous.
Et la nécessité d'un PS encore dans ce paysage politique actuel?
Oui, plus que jamais, je le crois. Je crois que nous n'avons pas été remplacés, ni par les uns, ni par les autres. Et ça n'est pas la voie simplement du juste milieu. C'est la voie de la raison face à des brutalités qui s'expriment différemment. Vous avez vu les images de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron. On dit que c'est un duel. Je crois que c'est un duo. En fait, il y a cette volonté permanente chez les uns et chez les autres de se présenter comme l'épouvantail de l'autre. Et donc, d'avoir un espèce de jeu à guichet fermé qui permet aux uns et aux autres de se renforcer et qui, en réalité, ouvre un boulevard éternel pour les droites. Parce que quand la gauche est divisée, quand elle est représentée principalement par ses forces les plus extrêmes, eh bien, ça ouvre un boulevard à ceux qui, justement, se présentent comme la modération. Moi, ce que je veux, c'est retrouver une force qui soit vraiment de gauche, vraiment réaliste, mais qui soit cette force centrale qui puisse rassembler de la gauche jusqu'au centre-gauche. Parce que quand nous ne sommes plus là...
De Mélenchon, hein, on est d'accord.
Oui.
Et vous nous direz comment faire.
Parce que les électeurs des uns et des autres, quand nous ne les rassemblons plus, eh bien, ça ouvre un boulevard, effectivement, à cette politique libérale qui est aujourd'hui conduite.
Alors, comment exister dans un duo, quand on est le troisième homme, en l'occurrence? Vous n'étiez pas dans la rue hier pour la fête à Macron, Olivier Faure?
Non, j'étais le 1er mai, je n'étais pas hier dans la rue. Parce que je considère que si nous voulons que le mouvement social se renforce, il ne faut pas donner le sentiment de sa récupération. Ça a déjà été testé au moment des ordonnances Pénicaud-Macron. Que s'est-il passé? Il y a eu un premier mouvement social, puis un mouvement politique qui a cherché à passer devant. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, on a asphyxié ce mouvement social. Et moi, je ne veux pas que ce mouvement soit restreint à ceux qui veulent soutenir les forces de gauche. Je veux qu'il s'élargisse à celles et ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, la politique conduite, notamment sur le service public, est une politique qui va dans le mur.
Françoise Fressoz, Nathalie Sartre.
Pardon, vas-y Françoise. Hier, la manifestation était très festive. Est-ce que vous reconnaissez...
C'est très mélangé.
Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a quand même des nouvelles formes de mobilisation que vous n'avez peut-être pas et qui peuvent faire mouche quand même dans l'opinion? Parce que c'était un rassemblement de joie collective hier. C'était pas la violence que vous dénoncez.
Mais et puis c'était pas les pancartes
syndicales. Je ne dénonce aucune violence. Je dis simplement que je pense que l'idée de la récupération, ça a été d'ailleurs dans la bouche d'autres que moi, dans d'autres manifestations, dans d'autres années. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à imposer la présence politique dans des mouvements qui sont d'abord des mouvements de colère sociale.
Mais hier, c'était un peu les 1 an de Macron, hier. C'était un peu la façon de dire, voilà, on est dans la rue au moment où le président fait ses
annonces. J'entends, regardez ce qui s'est passé le 1er mai, il y avait 200 000 personnes, il y en avait 40 000 hier. Je pense que ça montre qu'une part de ceux qui se reconnaissaient dans la manif du 1er mai sont revenus le samedi, mais une part qui n'est pas la part majoritaire. Et moi, je souhaite au contraire que nous élargissions au fur et à mesure et que celles et ceux qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans la politique conduite puissent le faire sans avoir le sentiment d'être récupérés par telle ou telle force politique. C'est d'ailleurs ce que dit Ruffin. Et de ce point de vue, je suis plus Ruffin que Mélenchon.
Mais qui était dans la rue, voilà. Et c'est un homme politique et député.
Est-ce que vous risquez pas d'essayer de regarder passer les trains? Première question. Le 26 mai, no way, il n'y a aucune raison que vous y alliez.
Le 22 mai, je serai dans la rue avec les fonctionnaires pour défendre une conception, là aussi, du service public. S'agissant du 26 mai, comprenons-nous.
Enfin, au bout d'un moment, on comprend.
Les sous-titres, le 26 mai, c'est le grand rendez-vous auquel appelle Jean-Luc Mélenchon.
Il y a tous les trois jours des nouveaux rendez-vous et on défile pour reprendre un autre rendez-vous. C'est relativement illisible. Est-ce que vous considérez... Alors, vous m'avez dit le 22, le 26, vous restez à regarder.
Mais... comprenons-nous
bien.
Est-ce
que vos électeurs le comprennent?
Non, mais d'abord, répondez à Nathalie. Est-ce que vous serez dans la rue le 26?
Je vais essayer d'abord de me faire comprendre.
Non, mais oui ou non?
Mais je vais d'abord commencer par me faire comprendre.
C'est trop compliqué, Olivier
Faure.
Non,
c'est pas compliqué.
Mais à une réponse à laquelle on peut répondre oui ou non?
La question est relativement simple, mais je voudrais d'abord me faire comprendre quelle est mon intention. L'intention, c'est d'élargir le mouvement. C'est de donner le sentiment que nous ne sommes pas dans une forme de récupération politique de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il y a des manifestations
qui sont
syndicales.
Vous serez dans la rue le 22, le 1er mai, vous y étiez, et vous n'y serez pas le 26.
On comprend très bien que quand les manifestations sont appelées par les syndicats de manière unitaire, eh bien, nous sommes présents parce que nous venons en soutien de ce qu'ils portent. En revanche, je ne suis pas simplement pour l'émotion de défiance. Parce que, il y a un moment où les Français ne comprendront pas, ce qu'ils ne comprendront pas, c'est que nous défilions ensemble avec des projets différents. Et donc, le 26, s'il s'agit de dire que nous sommes seulement dans la défiance vis-à-vis du pouvoir, cela ne suffit pas à rendre voilà. une, la confiance aux Français.
Vous avez défilé avec qui ? Avec la CFDT, donc, en fait, vous êtes compatible.
Mais pas du tout. Le 22, c'est pas point. Simplement la CFDT. Ce sont tous les syndicats qui appellent à manifester et nous serons avec l'ensemble des syndicats. S'agissant du 26, j'aimerais savoir sur quel mot d'ordre cette manifestation aura lieu. Il s'agit pas simplement de dire j'y serai, il s'agit de comprendre ce que l'on porte ensemble. Le 22, c'est clair. Le 26, ça ne l'est pas encore. Donc quand on saura exactement sur quoi on manifeste, je me prononcerai. Mais je ne veux pas me prononcer sur simplement une défiance. Je voudrais que nous soyons pas simplement dans la déconstruction, mais aussi dans la construction.
C'est-à-dire qu'il y a un
problème Mélenchon, je ne suis pas simplement
pour vous.
Un opposant, mais aussi un proposant. Je veux que la gauche ne soit pas simplement dans la résistance, mais aussi dans l'affirmation d'un projet politique.
Ça, on l'a compris.
Différent.
Sur
François
le fond, ce à quoi pensent les organisateurs du 26 mai, c'est la convergence des luttes. C'est la capacité à faire converger toutes les luttes. Ça, vous n'y croyez pas du tout,
Olivier Faure.
Mais je pense que nous n'y sommes pas encore. Et que, par ailleurs, il y a des temps différents. Il y a un temps qui est un temps social, et il y aura un temps qui sera un temps électoral. Quelle est la vocation des partis politiques ? C'est effectivement de répondre au mouvement social. Mais ça se passera lors d'autres échéances dans lesquelles nous devrons apporter une réponse politique à des revendications qui, elles, sont sociales. Et je ne voudrais pas que...
C'est vraiment très difficile à comprendre, Olivier Faure, très sincèrement.
Peut-être que c'est difficile, mais enfin, je crois
que
les gens...
un travail de pédagogie et de clarté, parce que vraiment, on est perdu.
Peut-être êtes-vous perdu. Moi, ce que je crois que les gens comprennent, c'est qu'ils peuvent avoir envie de défiler pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la réforme de la SNCF, par exemple, sans pour autant se ranger derrière la bannière des Insoumis, celle du Parti Socialiste, celle du NPA, parce qu'ils peuvent considérer qu'il y a d'abord un temps qui est celui de la contestation d'un projet qu'ils considèrent comme dangereux, puis viendra le temps où ils feront des choix politiques en fonction des offres qui leur seront faites. Ça,
mais
ça me paraît assez simple.
Mais est-ce que c'est pas la vieille politique que vous décrivez ? C'est-à-dire, ça a toujours été la stratégie du Parti Socialiste, on laisse les syndicats, et puis après, au moment de l'élection, ça, voilà. Est-ce que, au fond, on n'a pas changé complètement d'époque, et est-ce que tout n'est pas mélangé aujourd'hui ?
Mais alors, franchement, peut-être que je vais faire un rappel qui vous paraîtra obscur, mais s'agissant de la culture...
Nous voulons de la clarté, Olivier Faure.
De la culture à gauche... Franchement, cette volonté de radicaliser, de faire converger les luttes, et non pas de chercher à l'élargissement, mais au contraire, la radicalisation sur la base la plus conscientisée, c'est une tactique, une technique qui est aussi vieille que le trotskisme.
Alors,
et donc,
c'est pas la
nouvelle politique, c'est une politique
essentielle. Je m'inscris en faux, c'est pas du tout ce qui s'est passé avec la manifestation du 5 mai, à laquelle d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, il a fait à Macron, à laquelle au départ Mélenchon, qui est sans doute un peu plus vieille politique que François Ruffin, n'était pas au départ tout à fait favorable. L'idée, c'était précisément pas de radicaliser les luttes, c'était de les prendre tout ensemble, et il a parlé de pot-au-feu, et de mettre tout ensemble, et que chacun vienne avec sa petite colère, avec son petit panneau, et qu'on agrège ça, pas pour en faire un nouveau parti politique, mais pour avancer ensemble. Moi, je suis persuadée que si peut-être vous consultiez vos adhérents, peut-être que vos adhérents seraient prêts à partir, comme le MJS d'ailleurs qui vous a un peu quitté, enfin il vous en reste plus beaucoup au MJS, étaient des gens qui avaient envie que vous fassiez de la politique autrement, que vous soyez plus en prise avec le monde.
Non, mais d'abord, soyez rigoureuse sur le MJS, l'immense majorité sont restés au Parti Socialiste, ils ne sont pas partis.
Enfin, la présidente nouvellement élue est partie à Génération.
La présidente est partie, ça ne veut pas dire que les adhérents sont partis, l'immense majorité sont restés. Bon, peu importe, c'est pas le sujet. Sur le reste, moi je ne suis pas contre le fait qu'on fasse des manifestations festives. Ça n'est pas la forme que je conteste. Ça, je suis tout à fait prêt à avoir des défilés qui soient festifs, des poussettes,
enfin,
des chars.
Ça veut dire quelque chose quand même.
Mais ça, là-dessus, je suis totalement d'accord. Ce n'est pas ce que je conteste. Je dis simplement que les partis politiques ne doivent pas s'imposer devant la banderole syndicale et ne doivent pas chercher à utiliser une colère pour pouvoir, à ce stade, s'imposer comme étant ceux qui l'organisent. C'est très différent. Je ne suis pas du tout contre la forme que prend la manifestation. Au contraire, je préfère les manifestations joyeuses plutôt que les manifestations classiques. C'était très bien sur la forme.
Justement, comme Ali voudrait de la clarté, nous aussi, on va peut-être essayer un peu d'avancer. Vous dites que vous êtes une force d'opposition, que vous êtes en train d'essayer de la reconstruire. Vous parlez d'incubateur, de renaissance, de plein de choses. Je voulais savoir où vous en étiez un peu dans la galaxie de tous ces... Jean-Luc Mélenchon, vous en avez parlé un peu. Benoît Hamon, comment est-ce que vous vous situez ? Parce qu'on a vu, Françoise le disait tout à l'heure, qu'Emmanuel Macron avait tendance à monter Jean-Luc Mélenchon pour en faire son principal opposant. Vous, vous êtes où ? Vous êtes à côté d'Hamon ? Vous pouvez parler avec Benoît Hamon ? Vous pouvez parler avec qui ? Pour construire quoi ? C'est quoi votre type d'opposition ?
Moi, je souhaite parler avec tout le monde à gauche. Et je le fais semaine après semaine au Parlement. Je n'ai pas de problème pour parler avec Jean-Luc Mélenchon. J'assume à la fois nos convergences, mais aussi nos divergences. Nous ne sommes pas semblables, ce qui n'empêche pas de se parler.
Vous parlez,
Mais est-ce que vous pourriez travailler, réfléchir ?
Mais bien sûr, mais c'est... Enfin, c'est depuis un an le cas sur nombre de sujets. Nous avons même déposé des recours ensemble devant le Conseil constitutionnel parce que nous contestions de la même façon des projets qui nous étaient soumis.
Mais Jean-Luc Mélenchon dit qu'il ne veut pas de l'union de la gauche.
Mais
il ne veut pas d'alliance avec vous.
À l'Assemblée, cela se fait, mais c'est vrai que la question devrait être posée davantage à Jean-Luc Mélenchon qu'elle ne devrait l'être à moi, parce que celui qui théorise depuis l'élection présidentielle le fait qu'il n'est plus de gauche, mais qu'il est du peuple, c'est Jean-Luc Mélenchon. Celui qui conteste l'idée même du nom de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne conteste rien. Je dis simplement que il faut que nous ne soyons pas simplement dans la défiance, mais aussi dans la construction d'un message politique qui puisse être porté.
Et ça peut se faire éventuellement avec lui, ou sa personnalité même rend les choses problématiques.
Mais
parce
moi,
qu'il
je ne cherche pas à contester la personnalité de quiconque. Je fais avec ce qui existe. Je dis simplement qu'il faut que chacun sache où il habite. Et moi, je sais où j'habite. Je suis à gauche. Je suis à rechercher, avec toutes celles et ceux qui veulent le construire, une alternative à la politique menée par Emmanuel Macron, ce qui suppose à la fois d'être pleinement à gauche, mais aussi d'être pleinement réaliste. Et c'est là où je dis qu'il faut passer de la motion de défiance à une motion de confiance avec les Français. Parce que les Français ne nous demandent pas simplement de contester, ils nous demandent aussi de proposer. Et que ça suppose de ne pas simplement être dans une forme de radicalisation du propos. Je l'entends, je le comprends. Je vois bien que la colère qui monte est une colère que je trouve légitime, parce que entre Forbes et puis les EHPAD et les hôpitaux et les prisons, etc., il y a un écart qui est monstrueux et que ce président est dans une provocation de classe qui est insupportable. Mais François, il faut que nous ayons la capacité à dire que nous ne sommes pas simplement contre, mais aussi pour. Et donc, ça suppose de construire et pas seulement de détruire.
Alors, pour construire, il faut incarner. Vous avez été élu premier secrétaire en mars, et depuis, vous êtes relativement absent. Ou en tout cas, on a l'impression que vous êtes un peu coincé entre des personnalités qui donnent de la voix, Mélenchon, et puis aujourd'hui Hollande, qui a fait sa réapparition dans le paysage. Alors, comment est-ce que vous arrivez, vous pensez pouvoir vous imposer, et est-ce que vous en voulez à François Hollande d'être réapparu dans le jeu médiatique et politique au moment où vous prenez vos fonctions de premier secrétaire?
Olivier Faure.
Par tempérament, je n'en veux à personne, sinon à moi-même, quand je ne suis pas forcément là où on m'attend. Et donc, la question pour un nouveau premier secrétaire, inconnu du grand public, ce qui est à peu près le cas de tous les connus, ils ont commencé par être inconnus. Et donc, à moi de faire entendre cette voix singulière, qui est une voix différente dans un univers politique qui est tout vertical, qui est tout jupitérien, qui est donc... il faut faire entendre une offre différente. Et l'offre que j'essaye de bâtir avec mes camarades socialistes, c'est une offre qui n'est pas simplement verticale précisément, qui est aussi horizontale. Je veux que nous puissions retrouver la confiance des Français par la mise en œuvre de chantiers sur tous les grands sujets qui intéressent la vie quotidienne pour construire avec eux le Parti Socialiste de demain.
Mais est-ce que vous en voulez à François Hollande ?
Mais je n'en veux à personne, François Hollande.
Vous pouvez
son
lui
propre
vouloir.
Jeu. Non, je pense qu'il a une utilité quand il permet de dévoiler le jeu de Macron, quand il parle du président des très riches. Je pense qu'il est utile à la bonne compréhension de ce qu'est le macronisme. Ensuite, je voudrais que chacun comprenne que, et pas François Hollande, là en l'occurrence je parle à la presse, c'est que vouloir entretenir un suspense sur le retour de François Hollande me paraît illusoire. Aucun président de la République sous la Ve n'est jamais revenu.
Vous pensez que ça l'a pas effleuré une seconde? Qu'il se dit éventuellement...
Mais je ne sens ni les reins ni les cœurs. Je sais simplement que...
C'est pas vrai. Pas vrai, Olivier Faure.
Ah bon, c'est pas vrai?
C'est pas vrai. En l'occurrence, vous avez, avant d'être premier secrétaire du PS et dans une autre vie, fait une BD en l'occurrence, C'est Go François, Papa et moi, et où vous sondiez les reins, les cœurs, les foies, les cerveaux de ceux qui étaient à la tête du Parti Socialiste à l'époque. Alors, c'est un exercice que vous connaissez parfaitement bien.
Mais je ne sonde, je répète que je ne sonde pas ni
Mais je
rein,
vous dis que c'est
cœur.
Faux puisque vous l'avez fait et que vous le faites.
C'est un exercice de semi-fiction, un roman graphique à l'époque.
Oui.
Et aujourd'hui, je ne fais pas de roman graphique, je fais de la politique. Et donc, je ne sais pas ce que François Hollande a en tête. Ce que je sais, c'est que le suspense entretenu est un suspense qui est artificiel. Et donc, François Hollande est un président qui a été
un bon
gouvernant
président.
Pendant 5 ans, qui aujourd'hui cherche une place différente dans le monde politique.
Mais c'est joliment dit tout ça.
Mais ouais. Non, c'est la vérité.
Ça a été un bon président, François Hollande?
Ça a été un président qui n'a pas été compris. Ça a été un président qui a un bilan qui mérite un inventaire et que nous allons faire parce qu'il y a eu effectivement de grandes avancées.
Vous n'arrivez pas à dire que François Hollande a été un bon président?
Ça a été un président qui...
Ça a été un président, on est tous d'accord.
Oui, on est tous d'accord. Ça a été un président qui a fait...
Mais vous n'arrivez pas à dire, ça a
mais
été un bon président.
Mais parce que je ne veux pas être tout noir ou tout blanc. Je ne veux pas répondre
toujours... Mais attendez, est-ce qu'on risque pas d'être gris à force de pas être noir ou blanc?
Mais le bilan que nous avons... Mais notre bilan collectif, qui n'est pas simplement le bilan de François Hollande, est un bilan qui effectivement est gris. Autrement, nous aurions gagné. Nous serions aujourd'hui au pouvoir et vous seriez en train d'interroger non pas un premier secrétaire dans l'opposition, mais dans la majorité. Moi, je ne veux pas que nous soyons dans le déni. Je ne veux pas que nous puissions dire que nous avons tout fait parfaitement. Si nous avons connu l'échec et un échec historique, c'est
tragique,
parce qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, je ne veux pas dire aux Français, écoutez, nous avons été formidables pendant 5 ans, vous ne nous avez pas compris. Non, nous avons évidemment à nous remettre en question et à essayer de tirer les leçons d'un échec qui est un échec global et qui est un échec terrible. Donc, si François Hollande avait été un président parfait, eh bien, il aurait été réélu. Il n'a pas été parfait,
dites,
nous non plus, et donc
pas,
nous avons à tirer des leçons.
Il faut mieux se taire aujourd'hui.
François Fressoz,
ça ne vous tente pas de dire, mais qui se taise vu le bilan.
Mais il a écrit un livre qui peut être un premier pas vers ce que doit être notre inventaire. C'est sa propre part de vérité. Nous aurons à dire aussi la nôtre parce qu'il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, Laurence Perron aurait rappelé ce que dans le quinquennat moi-même j'avais pu dire. Je n'ai pas été d'accord sur tous les sujets. Et je l'ai exprimé parce que dès cette époque-là, je n'ai pas voulu me taire et j'ai voulu exprimer une position différente. C'est la raison pour laquelle je suis devenu d'abord président de groupe, puis que je suis devenu premier secrétaire. Parce que j'étais à la fois loyal, mais que j'étais en même temps critique. Parce que je pouvais être à la fois dans la volonté de faire réussir ce quinquennat et en même temps expliquer que je pouvais ne pas être d'accord à 100% avec ce qui se passait. C'est toujours le cas. Il y a des choses dans lesquelles je me suis retrouvé, que je n'ai pas de mal à porter, que je n'ai pas de mal à défendre et à revendiquer, mais il y a aussi des sujets sur lesquels je ne me suis pas retrouvé. Et je voudrais aujourd'hui que nous puissions avoir une gauche qui se ressemble, qui parfois ne s'égare pas là où elle ne devrait pas être, et qu'elle devrait être plus prévisible au sens où elle devrait être toujours là où ceux qui l'espèrent veulent la trouver.
Laurence Perron.
Tout n'est pas de la faute de François Hollande. D'ailleurs, non. Quand vous faites cet inventaire, vous l'avez dit au congrès d'Aubervilliers, il y a cette question européenne qui traverse le parti depuis le référendum de 2005, sur laquelle finalement le Parti Socialiste a assez peu parlé. Et c'est d'ailleurs la ligne de fracture entre la gauche du parti et la droite. La gauche qui est en train de partir, Régis Juanico d'ailleurs, il est parti ou il est encore là ?
Pas encore, mais...
Il devrait partir à Génération.
Je pense qu'effectivement, il est très tenté, pour des raisons d'ailleurs personnelles autant que politiques.
Delphine Bateau a quitté le PS.
Le PS.
Delphine Bateau a quitté le Parti Socialiste.
Et là, donc, les élections européennes qui... C'est la prochaine élection qui arrive. Il y a un vrai sujet au PS. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous attendent un peu avec des couteaux. Je pense à une sénatrice, par exemple, qui attend que vous ayez une position très ferme et qu'éventuellement, Pierre Moscovici soit pas tête de liste.
Olivier Faure.
Mais nous allons, pendant les prochains mois, travailler sur un projet commun sur la question européenne et qui sera tranché non pas seulement par nous-mêmes, mais par tous les Français qui veulent nous accompagner dans ce travail. Et donc nous allons effectivement chercher à être dans le dépassement de ce qui a été les conflits d'hier. On ne peut pas rester avec un Parti Socialiste qui se divise sur chaque question et c'est bien aussi l'un des ravages du quinquennat précédent.
Mais on fait passer la balance où ? Du côté des gens qui étaient contre le référendum ? Enfin, qui étaient contre le traité de Lisbonne ou de l'autre côté ?
Mais je souhaite que nous puissions être dans le dépassement, c'est-à-dire que nous soyons non pas à rejouer le match que nous avons perdu ensemble, mais que nous soyons dans une forme qui permette d'être dans la prospective, dans ce que nous attendons de l'Europe, dans ce que nous voulons de l'Europe. Et c'est le débat que nous allons avoir. Et ce débat, je l'aurai aussi bien avec Emmanuel Morel, qu'avec Stéphane Le Foll, qu'avec Luc Carvounas, qu'avec toutes
voilà,
celles
et ceux... Parce qu'entre Emmanuel Morel et Pierre Moscovici, c'est clairement deux visions de l'Europe qui s'affrontent.
J'espère que nous serons en mesure de présenter un projet qui nous soit commun. Et ensuite, sur la question de l'incarnation, nous nous la poserons aussi, mais elle est prématurée. D'abord, commençons par dire ce que nous voulons, et ensuite cherchons la personne qui peut l'incarner le mieux.
Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, est l'invité de France Info, du journal Le Monde et de France Inter.
Question politique sur France Inter.
Un mot pour décrire l'état de votre parti, Olivier Faure, le Parti Socialiste ?
Convalescent.
Juste pour revenir deux secondes sur l'Europe, s'il y a un sujet sur lequel Emmanuel Macron est clair, net, enthousiaste, c'est l'Europe. Vous me dites, vous répondez Emmanuel Morel ou Moscovici, on verra, on trouvera... Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme, quelle est votre vision à vous ? Est-ce que vous êtes un Européen convaincu ? Est-ce que vous êtes obligé de dire, on ne sait pas, et en même temps...
Ah non, je suis un Européen totalement convaincu.
Et est-ce que vous allez être audible par rapport à ce que peut faire En Marche au moment des Européens ?
Je l'espère, mais la question européenne, on peut être Européen sans partager la même vision de la politique européenne. Giscard et Mitterrand étaient européens convaincus l'un et l'autre. Est-ce qu'ils menaient la même politique ? Absolument pas. Moi, je suis européen comme Emmanuel Macron.
Et qu'est-ce qui ne va pas dans ce que fait Emmanuel Macron par rapport à l'Europe,
par
exemple ?
Aujourd'hui, Emmanuel Macron a une approche qui n'est pas la mienne sur l'Europe. L'Europe que veut Emmanuel Macron, c'est le cheval de Troie de la mondialisation libérale. Moi, je crois au contraire que l'Europe doit être l'instrument d'un rapport de force avec le reste du monde pour imposer nos propres standards, un modèle qui est un modèle unique dans le monde, sur le service public, sur la lutte contre les inégalités, contre... Donc, il faut aujourd'hui défendre ce modèle-là. Ça passe, par exemple, dans les accords commerciaux, par la défense de ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle je suis contre le CETA, contre le TAFTA, contre les accords Mercosur, parce que je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas des accords de juste échange, mais simplement des accords de libre-échange, et qu'ils menacent y compris ce que nous avons construit avec les accords de Paris. Et c'est donc une différence notable. Et puis après, il a une vision institutionnelle là où je voudrais une approche de projet. Je voudrais par exemple que sur la question migratoire, nous soyons en capacité aujourd'hui de faire ce que nous avons fait pour les banques en 2007-2008. Est-ce que ce que nous avons fait pour le système bancaire, ce qu'il fallait faire et qui était légitime, est-ce que nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui pour des êtres humains? Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que de mettre les milliards qui manquent aujourd'hui pour faire en sorte que nous puissions accueillir ceux qui doivent l'être et que nous puissions maintenir celles et ceux qui aujourd'hui fuient parce que le climat, parce que la misère, parce que la détresse? Ça, c'est une question qui est posée aux Européens. Est-ce qu'ils seront à la hauteur de leur mission historique ou est-ce qu'ils se laisseront avaler par l'étroitesse de la politique aujourd'hui austéritaire qui condamne y compris l'idée européenne ? Françoise. Voilà l'enjeu.
Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté d'être premier secrétaire du PS ? Autrement dit, quelle est la stratégie de reconquête pour un parti qui, quand même, est extrêmement mal en point ? À quoi croyez-vous dans la recomposition actuelle ?
Olivier Faure.
D'abord, je crois à ce que les socialistes ont porté pendant plus d'un siècle.
Même si on parle d'une grave crise de la social-démocratie partout en France et en Europe.
Oui, mais je veux bien y venir. Mais d'abord, je suis convaincu par ce que nous avons fait. S'il y a eu de grands progrès dans le domaine social, dans le domaine des libertés publiques, c'est précisément parce que les socialistes ont été là pendant plus d'un siècle. Ils n'ont pas pris le tournant de la mondialisation et ne l'ont pas pris suffisamment au sérieux. Et nous nous sommes éparpillés entre Blair, Schröder, Jospin à l'époque où nous étions majoritaires. Nous n'avons pas su prendre ce tournant-là, à bras-le-corps. Et nous nous sommes divisés entre ceux qui voulaient accompagner la mondialisation et ceux qui voulaient la réguler. Et cette division a créé une forme d'impuissance qui a été entendue par les Européens. Et donc cette crise, effectivement, elle est européenne.
Mais vous faites de l'histoire donc, là où François nous interroge sur l'avenir.
Mais depuis tout à l'heure, je ne fais pas que de l'histoire. J'essaie d'expliquer d'où nous venons pour savoir où nous allons. Et donc, nous avons à retrouver cette capacité qui n'est plus seulement une capacité nationale. C'est pour ça que je suis européen. C'est que je pense que, malheureusement, les États-nations n'ont plus la force d'imposer ce qu'ils veulent. Et que ça suppose aujourd'hui d'aller à l'échelon
celui
européen.
Celui qui l'a dit le plus fortement, c'est Emmanuel Macron. Donc vous êtes
écoutez,
fortement
ça
sur
fait
la défense.
Un mois que je suis premier secrétaire, laissez-moi le temps de le dire avec la même force et le même engagement. Oui, je suis un Européen convaincu. Oui, je crois que l'Europe est le bon échelon pour traiter des problèmes de la mondialisation. Mais non, je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Macron pour laisser la mondialisation rentrer en Europe et s'imposer. Je suis au contraire pour que nous ayons une Europe qui soit une Europe forte, une Europe qui s'impose elle face au monde et qui dise au monde nous avons un modèle, nous y tenons
aussi,
et nous ne laisserons pas et nous ne laisserons pas les autres nous imposer leur propre modèle. Ce n'est pas ce que dit Emmanuel Macron quand il parle à Forbes.
Olivier Faure, il dit la même chose.
Non, quand il parle à Forbes, il dit exactement l'inverse. Il dit je veux que la France soit attractive, non pas au sens où elle serait attractive par son modèle, mais attractive par l'alignement sur le modèle des autres. Et c'est précisément ce que je ne veux pas. Je ne veux pas être un Américain comme les autres. Je ne veux pas être
Macron,
un Anglo-Saxon comme les autres.
C'est comme ça que vous le qualifiez aujourd'hui, au bout
mais
d'un an ?
Je ne veux pas dire qu'il est trumpien ou trumpiste. Je dis simplement que le modèle qu'il défend est un modèle libéral. Il faudrait quand même ouvrir les yeux. Au bout d'un an de gouvernance Macron, qu'est-ce qui, aujourd'hui, le distingue des libéraux ? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait se rattacher à l'idée qu'il serait et de droite et de gauche ?
Et vous ne croyez pas à un tournant, à une deuxième phase éventuelle dans le quinquennat qui pourrait intervenir dans un an, dans 18 mois, et qui est d'abord le pain noir et après le pain blanc et...
Non. C'est ce à quoi se rattachent ceux qui, sincèrement, l'ont suivi venant de la gauche.
Non, mais je vous demande, vous, votre pronostic.
Moi, je ne le
Ou
vois pas.
Ou alors il a trompé François Hollande de façon absolument insensée.
Mais s'il n'a pas trompé que François Hollande. Même au lendemain de l'élection présidentielle, quand il a été élu par des voix de droite et de gauche face à Marine Le Pen, on aurait pu s'imaginer quand même qu'il ne fasse pas ce que Chirac avait fait en 95. C'est-à-dire qu'il considère que les voix qu'il avait portées au pouvoir étaient suffisamment diverses pour en tenir compte. On aurait pu s'attendre à ce qu'il ait un pouvoir qui tienne compte de ces gens qui aujourd'hui manifestent et qui, pour une bonne part, ont voté pour lui. Donc moi, j'ai voté pour lui au deuxième tour.
Revenir chez vous.
Non, je dis pas ça. Je dis simplement que la politique qu'il mène est une politique à sens unique, qui n'a pas cherché à s'élargir à tous ceux qu'il avait élus. Il a cherché à conduire une politique qui est une politique exclusive et qui est exclusivement
comment,
à droite.
Comment expliquez-vous qu'un pourcentage encore appréciable d'électeurs socialistes, proches des socialistes, finalement, continue de le soutenir? Qu'est-ce qui fait que Emmanuel Macron est considéré quand même par un homme de gauche, par une partie de l'électorat de gauche?
D'abord parce qu'ils ne nous perçoivent pas nous-mêmes et parce qu'ils ne savent pas très bien où est le Parti socialiste. Et donc, ils voudraient comprendre effectivement quelles sont les valeurs qu'il défend, quels sont les projets qu'il met sur la table. Et puis, parce que tout simplement, aujourd'hui, le jeu dangereux que joue Emmanuel Macron, c'est moi, le couloir central, et je repousse l'alternance vers les extrêmes. Et donc, faute de grive, enfin faute de merle, eh bien, on prend les grives. Et donc, il y a un certain nombre de Français qui disent jamais Mélenchon, jamais Marine Le Pen, je ne sais pas ou LPS. Et donc, je choisis Macron, faute de mieux. Et donc, le but de ce que je cherche à remettre en place, ces chantiers que je veux mettre en œuvre avec les Français, c'est justement de leur dire, vous allez retrouver une gauche qui vous ressemble, qui n'est pas une gauche qui est dans l'excès, qui n'est pas dans la protestation exclusivement, qui est une gauche qui construit, une gauche qui a à la fois la volonté d'être totalement elle-même, mais aussi totalement réaliste, parce que je ne veux pas vendre de l'illusion. Je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il faudrait simplement faire rêver. Je veux aussi être suffisamment réaliste pour que demain, à nouveau au pouvoir, nous puissions réaliser ce que nous disons dans l'opposition.
Olivier, vous dites que vous voulez pas de l'illusion, vous dites que vous voulez pas du spectacle non plus, que vous êtes pour une certaine forme de décence. Je voudrais revenir sur le problème de l'incarnation. Est-ce que finalement, si on est aussi peut-être moralement solide, moralement clair, mais qui va faire si peu rêver, est-ce que c'est pas un problème? Et puis deuxième chose, on avait parlé de Benoît Hamon tout à l'heure, vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'on peut aussi entraîner des gens quand on est tout seul et que finalement on a un appareil autour de soi assez rabougri et avec peu de gens charismatiques? Est-ce qu'on peut faire?
Mais nous ne sommes pas tout seuls.
Vous êtes avec qui?
Nous sommes singuliers. C'est-à-dire que singulier. Nous avons, mais c'est parce que nous avons une expression qui n'est pas
singulier au sens synonyme de seul.
Non, ce n'est pas synonyme de seul. Je vous rappelle que la question a été posée à Jean-Luc Mélenchon il y a un an, Emmanuel Macron il y a un an, sur le fait qu'ils étaient isolés. C'est ce que tout le monde leur disait. Mais où sont vos alliés? Et finalement, ils ont incarné dans l'élection présidentielle ce nouveau monde. Moi, je ne dis pas que nous sommes aujourd'hui en capacité d'être l'alternance. Personne ne le croirait. Je dis simplement que nous avons d'abord à bâtir une offre et puis après à discuter sur la base de cette offre-là avec d'autres. Je ne dis pas que je ne veux discuter avec personne, mais ça, ce serait très vieille politique de commencer uniquement les alliances avec les autres. Moi, je veux d'abord que nous puissions bâtir avec celles et ceux, les Français, qui nous ont longtemps accompagnés et qui ne nous suivent plus, leur dire, écoutez, nous sommes à nouveau ouverts. Nous allons reconstruire avec le monde associatif, le monde syndical, avec les ONG, avec toutes celles et ceux qui ont envie de dialoguer avec une force qui n'est pas une force de protestation exclusivement.
Et Benoît Hamon, vous prononcez toujours pas le mot, je voudrais, ça fait trois
mais
fois.
Benoît Hamon, je n'ai pas de problème avec Benoît Hamon. Attendez, moi, je n'ai aucun problème avec Benoît Hamon. J'ai fait sa campagne loyalement parce qu'il était le candidat qui avait remporté les primaires. Mais j'ai porté sa campagne
avec beaucoup de bonne volonté.
Avec
Mais
en y croyant, j'ai voulu faire en sorte que...
En y croyant.
Oui, il y a des intuitions que Benoît a portées dans cette campagne présidentielle qui sont des intuitions que je pense justes et sur lesquelles je pense qu'il y avait, il y a toujours matière à réfléchir et qui n'a pas été uniquement le candidat du déshonneur. Je pense qu'il a été aussi un candidat qui a porté
2 200 000 voix sur 36 500 000 personnes qui se sont déplacées pour voter
présidentielle. Mais je sais bien que cette défaite est une défaite sévère, historique et que je ne mets pas uniquement sur le dos de Benoît. Je pense qu'il a eu une campagne qui n'a pas toujours été à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, mais je l'ai portée avec lui parce que je pensais qu'il y avait dans cette campagne une voix qui était celle de Benoît Hamon qui n'était pas une voix inutile. Et c'était une voix qui portait des valeurs auxquelles je crois et que je partage.
Mais vous n'êtes pas irréconciliable, il n'y a pas deux gauches irréconciliables entre lui et vous.
Non, je ne suis pas irréconciliable, je pense que Benoît a dit des choses intéressantes. Et je pense que nous pouvons travailler ensemble. Je pense que je peux aussi travailler, discuter avec toute la gauche. Je dis simplement que j'assume à la fois nos convergences mais aussi nos divergences. Je ne suis pas Benoît Hamon, je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas Olivier Besancenot, je suis socialiste. Et donc, ça me distingue, même si ça ne me rend pas à moi seul la gauche. Je suis, je parle avec d'autres et je souhaite simplement qu'on respecte dans ce débat la voix singulière des socialistes.
Laurence Puisqu'on Coron. Parle de la campagne, vous avez suivi un peu ce qui commence à devenir une petite affaire, GL Events, sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron. Mélenchon, hier, parlait d'un ristourne gate. Est-ce que vous allez aussi loin?
Il y a, à l'évidence, quand même, quand on y pense, la première loi qu'Emmanuel Macron a faite voter au Parlement, c'est une loi sur la confiance dans la vie publique, dont le sujet principal était le conflit d'intérêts. Or, que découvre-t-on? On découvre qu'il y a des ménages qui sont très curieux. Et dans cette campagne, il y a une espèce de connivence entre le monde des affaires.
Des mélanges, peut-être, vous voulez
dire. Des mélanges, des ménages. C'est-à-dire qu'il y a des salariés de GL Events qui sont venus travailler dans la campagne, visiblement, et que, au lendemain de la campagne, Emmanuel Macron, qui n'a pas, en tant que président, d'amis, nous disait-il l'autre jour, a visiblement des amis qu'il a maintenus et qui, eux-mêmes, ont été des amis utiles dans la campagne et qui ont, effectivement, été auteurs de cadeaux. Et donc, je voudrais que nous puissions vérifier que le conflit d'intérêts n'a pas été au-delà de l'élection présidentielle. Il faut vérifier maintenant que cette entreprise n'a pas bénéficié depuis de contrats avec la puissance publique, que ça n'a pas servi à autre chose, que le conseiller
donc
de Emmanuel
Macron...
Donc
vous appelez le parquet national financier de s'emparer de l'affaire? Ou est-ce que vous considérez que la Commission nationale des comptes de campagne a fait son travail et qu'elle a jugé les comptes réguliers?
Alors, la question des comptes financiers, vous savez très bien qu'elle a un rôle qui est un rôle a posteriori et que ses capacités d'enquête sont extrêmement limitées. Donc je souhaiterais effectivement, aujourd'hui, que le parquet financier, s'il pense qu'il y a matière à enquêter, puisse s'autosaisir et faire en sorte que sur ce sujet, il y ait un droit de suite et que ce soit un droit de suite judiciaire.
Je voulais juste avoir votre avis sur un certain nombre de facultés ont été occupées, certaines ont été aussi désoccupées, c'est avec l'intervention des forces de l'ordre. Est-ce que globalement vous vous êtes dit c'est pas supportable qu'il y ait une poignée de gens qui bloquent et finalement les consignes du ministère de l'Intérieur sont les bonnes pour que les étudiants puissent passer leurs examens et continuer à travailler?
Olivier Faure.
Ce n'est pas mon approche. Je voudrais que chacun comprenne que la meilleure façon de faire baisser la tension, ce n'est pas de répondre avec des CRS, mais c'est de répondre à l'inquiétude. S'il y a des assemblées générales étudiantes qui mobilisent des centaines d'étudiants, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire qu'il y a des étudiants qui sont inquiets, qui ne comprennent pas comment ça va marcher. Et plus encore que les étudiants, il y a des lycéens qui ne savent pas encore à quelle sauce ils seront mangés.
Il y a peut-être aussi des gens de l'extérieur qui viennent les aider à pas comprendre ce qui se passe. Quand il y a des votes, par exemple, grâce à Internet et qu'on demande, on consulte tous les étudiants qui peuvent s'exprimer sur on continue ou non, on bloque, ça, vous trouvez que c'est une bonne solution? Ou faut toujours écouter ceux qui bloquent, même s'ils ne sont pas très nombreux?
Il y a des gens qui bloquent et qui parfois nuisent eux-mêmes au mouvement qu'ils sont censés défendre. Je ne cherche pas à dire qu'il y a une bonne façon de procéder. Je dis simplement que quand on veut faire baisser la température, il ne faut pas casser le thermomètre. Il faut traiter la maladie elle-même. Et quel est aujourd'hui le problème qui est posé aux étudiants? C'est qu'ils ne comprennent pas comment ça va. Et pas seulement les étudiants d'ailleurs, les enseignants, qui nombreux sont venus me dire qu'ils ne savaient même pas comment ils allaient réussir à appliquer de manière responsable Parcoursup et que les moyens manquent cruellement pour appliquer tout cela. Et donc, ils vont être amenés à user de critères qui sont des critères qui vont conduire à une sélection qui ne dit pas son nom et une sélection qui sera souvent une sélection sociale, malheureusement. Et c'est cela que disent les étudiants aujourd'hui. C'est cela que disent aussi les lycéens. C'est ce que disent aussi les enseignants. Et c'est cette parole-là qui n'est pas entendue. Et donc, Emmanuel Macron, à chaque fois, c'est toujours la même technique, cherche à encourager la radicalisation. Et quand la radicalité existe, il dit, regardez, c'est pas supportable, c'est pas possible. France, on peut pas laisser les casseurs, on peut pas laisser les bloqueurs, on peut pas laisser.
Mais quand vous voyez la protestation à l'intérieur même de Sciences Po, qui est quand même le champ de l'école sélective, vous pensez pas que c'est quand même un mouvement très politique, qui est très politisé?
C'est un mouvement
qui normal est, sup.
C'est un mouvement qui est forcément parfois politisé. J'étais à Sciences Po il y a quelques jours pour répondre à une interview de leur radio interne. Et effectivement, j'ai été interrogé par des gens qui parfois ont une vision, qui est une vision très politique.
Quand il y a Éric Coquerel à Tolbiac, c'est pas pour aller voir un de ses neveux qui étudie là-bas. Vous voyez, il a annoncé Jean-Luc Mélenchon qu'il fallait aller investir le sort des étudiants, des lycéens. Ça a été dit très clairement. Donc, si c'est un mouvement très politique, est-ce que vous continuez à penser que c'est juste le symptôme d'un malaise et qu'il ne faut surtout pas évacuer ?
Olivier Faure.
Mais moi, j'ai commencé à m'engager dans la vie syndicale et politique quand j'étais lycéen puis étudiant. Et j'ai été notamment l'un des porte-parole dans ma propre université, à Orléans à l'époque, contre la loi de Vaquer. Okay. Et ce que j'avais très bien entendu et compris dans les amphithéâtres dans lesquels je cherchais à faire monter la contestation, eh bien, c'est qu'il y avait la volonté des étudiants de ne pas être soumis à un parti politique et qu'ils souhaitaient pouvoir librement, en conscience, s'opposer sans pouvoir être dès à présent récupérés par telle ou telle formation. Et c'est ce que je me suis appliqué à faire pour élargir le mouvement. Et donc, c'est toujours la même question. Moi, je n'interdis à personne, et comment le ferais-je, d'aller dans les universités. Mais je ne pense pas que ce soit un service à rendre que de laisser penser que la contestation aurait forcément comme seul débouché l'insoumission de Jean-Luc Mélenchon.
Il nous reste 2 minutes. Très rapidement, est-ce que vous avez trouvé un siège pour le Parti Socialiste puisque vous quittez la rue de Solferino ?
Oui. Plusieurs. La décision n'est pas encore prise et j'ai dit que ma préférence allait effectivement à un siège à Ivry-sur-Seine qui est un siège qui est un siège dans un quartier populaire qui est une ancienne manufacture et qui...
Mais la décision n'est pas prise, c'est à vous de prendre la décision.
Voilà, je suis plutôt pour les décisions collectives.
À un moment, il vous dit un boss, vous êtes le premier secrétaire.
C'est contesté, non ?
Il y a quelques voix qui le contestent, et j'espère les en convaincre, et in fine, je prendrai la décision. Et
donc, d'aller donc à Ivry-sur-Seine.
Et donc, j'ai dit ma préférence, c'est Ivry, mais nous avons encore une négociation en cours avec des propriétaires à Ivry et à Paris, et donc je ne souhaite pas, dès à présent, donner un point final à cette négociation, parce que une négociation, ça suppose de pouvoir discuter et non pas de l'achever sur un plateau de télévision.
Alors, il reste très peu de temps.
Alors, vous allez déménager. Du coup, ce sera Ivry. Le maire communiste, d'ailleurs, le vit pas très bien, parce qu'il dit, Ivry pour le Parti communiste. Est-ce que vous ferez une université d'été cette année ?
Oui, sous une forme certainement différente, mais nous aurons...
La tradition va repartir, ce sera pas à La Rochelle.
Nous avons des formes à inventer pour des raisons qui sont notamment financières, mais effectivement, il y aura l'université des élus à La Rochelle, que je conclurai, et puis il y aura aussi une université qu'on conduira pendant certainement tout le mois de septembre pour remettre en mouvement ce parti qui doit retrouver une force et une voix, des voix dans la vie politique française.
Demain, le Premier ministre reçoit les syndicats de la SNCF. Est-ce que vous estimez que la sortie de crise est possible ?
Il ne m'appartient pas à ce stade de dire comment... Enfin, ça appartient au gouvernement. Et tout le monde sait que pour l'instant, la réforme qui a été posée est une réforme qui ne résout rien. Que veut le monde syndical ? Que veut le Parti Socialiste ? C'est une réforme qui soit une réforme utile. Pour l'instant, on a eu
une réforme
idéologique.
Mais c'est tout simplement. Céder
c'est exactement ce qui s'est passé jusqu'ici. Mais pour l'instant, le gouvernement a cherché simplement à opposer les Français entre eux et à mettre en pâture les cheminots, en laissant penser qu'ils étaient la cause de la dette de la SNCF. Donc une bonne réforme, c'est une réforme qui permet de traiter de la dette, qui dit ce qu'on fait en termes d'investissement, qui dit ce qu'on fait en termes de conventions collectives pour protéger à la fois les cheminots de la SNCF et tous ceux qui demain seront dans le système ferroviaire.
Merci Olivier Faure. Bon dimanche et merci d'avoir été notre invité. Merci à toutes les trois. Merci à Alexandre Gilardi d'avoir préparé cette émission. Je vous retrouve juste après le journal pour le grand face-à-face de France Inter, le temps de monter les 5 étages de la maison de la radio. Et donc, à tout de suite.